Ça va en termes de séquence, vous voyez comment la pièce va en train d'évoluer? Ok.
Nous sommes à la maison d'arrêt des hommes de Fleury-Mérogis, dans la salle polyculturelle, en répétition avec le chorégraphe Willy Pierre-Joseph, ses danseurs et des détenus, pour le spectacle « Je t'épouserai ».
Normalement, après ce tableau-là, il y a un tableau qui s'appelle « Les scénettes », où finalement, la personne qui est au milieu, après le duo, elle va se mettre à songer aux choses, en fait. La conversation qu'on avait eue la dernière fois sur tu te rappelles, dans les mariages, il y a toujours un gars qui fait ça, il y a toujours une fille qui fait ça. Ouais, il y a toujours le gars qui est en retard, la tante que tu croises jamais. Et comme par hasard, à ton mariage, elle est présente juste pour manger et pour repartir. Voilà, il y a toujours la wedding planner qui est stressée. Voilà, vous voyez, c'est ce truc-là, là. Ben ça, on va le mettre encore, mais pas pour aujourd'hui. D'accord? Du coup, on va passer à une pièce qui s'appelle Nika. Ok? Nika, pour moi, ça représente la cérémonie. C'est une cérémonie de mariage, ou pas, en vrai. Mais ça représente l'union. Du coup, cette pièce, elle est particulière parce que si ce cube-là, il est là, c'est l'espace mental petit, celui qui a grandi, puis finalement, c'est les deux entités qui se rejoignent. Ok? Donc, on va mettre en place Nika, les gars, du coup. Il y a le cube à aller chercher, il y a la plaque à mettre. Tout ça, ça va être mis en scène pendant la scène des scénettes. Are you ready?
Il est 19h sur France Culture et la répétition a lieu en détention. On traverse les longs couloirs des cellules, plusieurs portes à barreaux, à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Et au dernier étage, on arrive à la salle polyculturelle, avec des murs de couleurs, peints par des artistes, des bancs et une estrade, petite scène de théâtre. Mais le chorégraphe Willy Pierre-Joseph a adapté l'espace pour la répétition. Il est venu avec 4 danseurs de sa compagnie et avec un cube, une structure métallique de 2 mètres, cube ouvert, avec à l'intérieur un autre cube qui, lui, tourne. Tous deux supports au mouvement, puisqu'on peut s'y accrocher, le traverser, entrer et sortir. Les danseurs professionnels et personnes détenues sont en train de répéter le spectacle « Je t'épouserai ». Voilà le récit proposé. On imagine qu'il y a une promesse de mariage qui permet, depuis la détention, de se projeter dans la vie d'après. Cette promesse met les corps en mouvement. Et ce spectacle sera présenté au festival Vis-à-Vis, qui a été créé en 2016, c'est une biennale. Il en est à sa 5e édition, et c'est un véritable temps fort de la création artistique en milieu carcéral. Cette année, des spectacles se répètent pendant plusieurs mois dans 9 centres pénitentiaires partout en France. L'idée, dès le départ, est celle de la représentation, en espérant des permissions de sortie qui seront accordées ou pas au dernier moment par l'administration pénitentiaire. Willy Pierre-Joseph propose, lui, d'explorer de nouvelles façons de bouger, de réveiller ce qui est en sommeil, la mémoire des corps. Lui a d'abord fait du sport, avant de découvrir la danse à 16 ans. Il a été éducateur spécialisé pendant 10 ans, avant de faire un master de danse-thérapie. Il est certain que le corps influe sur la pensée et l'imagination. Sa compagnie s'appelle Reiko et c'est aussi le nom de sa méthode. Le spectacle « Je t'épouserai » propose au corps de se projeter dans le futur et de traverser un espace mental qui s'ouvre au possible.
Là, on a improvisé un truc, tu vois. Tac, bim, tac, pif, 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 pif. Rassemblons-nous.
Nous sommes à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, en répétition.
Je m'appelle Willy Pierre-Joseph, danseur, chorégraphe, pédagogue, mais surtout artiste du mouvement.
Après cette parade-là, en fait, on va tout simplement continuer jusqu'à se replacer derrière. D'accord ?
Willy Pierre-Joseph est venu avec ses danseurs pour travailler avec une dizaine de détenus. L'un d'eux, qu'on appellera J, nous racontera le processus de création du spectacle « Je t'épouserai » qui se jouera au Théâtre Paris-Villette pendant la 5e édition du festival Vis-à-Vis du 2 au 5 mai.
3, 2, 1, let's go, on tourne.
Vous écoutez Tous en scène sur France Culture. Ce jour-là, en répétition, il y avait plus de gens que d'habitude. Et la fondatrice et directrice du festival Vis-à-vis, Valérie Dassonville, est venue voir le travail. L'occasion pour nous de lui poser quelques questions. Valérie Dassonville, quand vous êtes metteur en scène, il y a quelques années, vous avez fait des ateliers en centre de détention. Est-ce que vous vous souvenez de ces moments-là et qu'est-ce que ça vous a apporté pour la suite et la création, j'imagine, en 2016 de Vis-à-vis?
Oui, alors c'était la première fois que je suis venue travailler à Fleury, c'était il y a 22 ans, très exactement. Puis après, j'ai eu une autre expérience importante, j'ai dirigé un théâtre en milieu hospitalier. Ça a été aussi quelque chose de très important. Et puis du coup, je suis revenue travailler à Fleury, où j'ai travaillé pendant, on va dire, 4-5 années consécutives à mener des projets de création partagée. Moi, j'appelle ça création partagée parce que ça mêle vraiment des artistes ou techniciens professionnels et des amateurs sous main de justice. Ce dont je me suis toujours préoccupée, et quelque part ça préfigurait Vis-à-vis, c'était que tous les projets qu'on menait ici puissent trouver une façon de sortir et d'être vus, ou dans l'espace public, ou sous forme d'exposition, sous forme de projection quand il s'agissait de films. Je n'avais pas encore eu l'idée de demander des permissions de sortie pour les participants, mais c'est quand même là que c'est né, parce que je me disais qu'en fait le travail que je faisais ici, il y avait aucune raison qu'il ne trouve pas sa place en fait à l'extérieur, notamment sur des lieux de culture et devant des publics. Voilà. Et quand j'ai pris la codirection avec Adrien Devant du Théâtre Paris Villette et que j'ai souhaité poursuivre en fait ce travail avec le milieu carcéral, j'ai pensé exactement de la même façon et je me suis dit comment est-ce qu'on fait pour que les projets des artistes soient considérés comme des œuvres à part entière et puissent du coup se produire sur des plateaux devant des publics. Voilà. C'est comme ça qu'est née l'idée de Vis-à-vis en fait.
Et qu'est-ce qui se joue selon vous justement quand ils ont une permission de sortie et qu'ils peuvent se représenter devant un public? Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là de plus que l'atelier qu'ils ont vécu?
Déjà, ça leur est pas présenté comme un atelier, puisque les artistes, eux, considèrent qu'ils sont en création. Donc, on est vraiment avec une équipe artistique qui réalise une œuvre, une création. Donc, l'aboutissement d'une création, de toute façon, c'est la présentation au public. Enfin, notamment en spectacle vivant. Donc, à la base, je pense que de plus en plus, les amateurs sous main de justice qui vivent ces moments de création partagée ont très vite conscience que ce processus va amener à une représentation en public. Et du coup, ça en fait totalement partie. Et ce que ça apporte pour moi, c'est l'aspect, on va dire, c'est un mot un peu... C'est la professionnalisation des deux côtés. C'est-à-dire, pour un amateur sous main de justice, c'est vraiment rentrer dans un processus de création professionnelle. Donc même s'ils ne deviendront pas comédiens ou danseurs par la suite, cette aventure-là, ils la vivent comme telle. Et pour les artistes, c'était ça ma porte d'entrée à moi, c'était de dire en fait, c'est pas parce qu'on est en résidence de création dans un lieu qui n'est pas un lieu de culture, qui est un autre lieu de l'institution, qui est l'administration pénitentiaire, ou en tout cas le centre de détention, qu'on n'est pas en création. Et donc pour les artistes, c'était aussi se sentir totalement dans l'exercice de leur métier et de leur art, que de leur dire, vous allez produire ça sur un plateau équipé, un théâtre Capignon-sur-Rue, qui est un théâtre de la ville de Paris, devant un public.
Et j'imagine que les créations doivent jouer avec les présences et les absences in fine de chacun, puisqu'on n'est jamais sûr de la permission de sortie, on attend. Comment les artistes s'emparent de cette incertitude?
Alors oui, incertitude, le mot est faible, mais bien sûr, c'est vraiment... moi, je l'ai beaucoup vécu hein, aussi, des ateliers, enfin, des séances, on va dire, de travail qui déjà changent tout le temps, en fonction des personnes qui sont présentes ou pas pendant les séances de travail, avec une grande inconnue de la raison de pourquoi ils ne sont pas là. Et ça demande, en fait, pour les artistes, mais pour tous les artistes, y compris les amateurs, ça demande d'être hyper plastique. C'est-à-dire qu'en fait, on est en création 24 sur 24 et jusqu'à la dernière seconde. Et ça, moi, en tant que metteur en scène, je l'ai vraiment vécu comme la quintessence de la création. C'est-à-dire me dire, en fait, je dois être capable de créer jusqu'au bout. Alors, on va dire s'adapter. Non, moi, je dis créer jusqu'au bout. Parce qu'effectivement, on sait d'où on part, on sait jamais où on arrive. Et des anecdotes là-dessus, qui ont donné d'ailleurs des représentations extrêmement émouvantes et presque merveilleuses, miraculeuses, j'en ai eu plein. Oui, mais à chaque fois que je la raconte, je pleure. Non, mais j'en ai une très, 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 qui vraiment illustre ça de façon de façon très forte, c'est Sandrine Lanneau, qui est une metteuse en scène qui travaille beaucoup en détention, et notamment elle a participé à deux éditions de Vis-à-vis. Elle travaille à Réau, donc le centre pénitentiaire sud-francilien, où c'est le seul établissement, en tout cas je crois en Ile-de-France, où des hommes et des femmes peuvent participer à un projet de spectacle vivant ensemble, des hommes et des femmes détenus. Elle monte L'Ours de Tchekhov, donc la comédie que beaucoup de gens connaissent, en tout cas, qui est une espèce de grande engueulade entre un homme et une femme qui finit en histoire d'amour. Elle a, au début, 8 participants, donc 8 couples, 4 couples, on va dire. Elle perd les détenus les uns derrière les autres. Et elle termine, juste avant Vis-à-vis, avec 2, à qui on dit, si ça se passe bien, vous pourrez sortir. Au final, le juge d'application des peines donne une permission de sortie, le parquet fait appel. Donc la permission est annulée. Impossible de réunir une commission dans les temps pour faire changer la décision du parquet. Ça veut dire plus de sortie. Sandrine m'appelle, me dit, Valérie, c'était 48 heures avant Vis-à-vis, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que je demande toujours aux artistes, eux, ce qu'ils veulent faire. Elle me dit, moi, j'ai des voix enregistrées des anciens, je peux aller enregistrer les voix de Bruce et de Georgina. À ce moment-là, je fais L'Ours, avec uniquement des voix off, et des pinceaux de lumière, des douches de lumière qui s'allumeront sur des chaises vides, là où ils auraient dû être, au plateau. Je dis, pas de problème pour moi, ça marche. Elle m'appelle 24 heures avant, elle me dit, tu le croiras ou pas, Georgina vient de sortir, elle a été libérée. Souvent, ils ne savent pas hein, leur date de libération. Je lui dis, mais elle va venir? Elle me dit, vu ce qui s'est passé, certainement pas. Je lui dis, propose-lui quand même. Et le jour de Vis-à-vis, à 9h du matin, on sonne à la porte du théâtre. Georgina arrive avec ses cousins, femme roumaine, 30 ans, lumineuse. Elle arrive, elle me dit, je viens pour jouer ce soir. Elle a passé la journée à répéter et elle a joué seule. L'Ours. C'était la voix de Bruce enregistrée qui lui donnait la réplique. Cette femme n'avait jamais mis les pieds sur un plateau de théâtre. Elle a joué seule devant 200 personnes, L'Ours. Et elle a joué pour toutes les personnes qui avaient travaillé avec elle. Et à la fin, elle a cité tous les noms de tous les participants. Ça, moi, tout le monde pleurait. Personne n'avait jamais vu ça. Et ça se passe de commentaires. Ça raconte ce que c'est que la création au milieu carcéral. C'est ça. Mais c'est ça, avec toutes les frustrations que ça comporte, mais aussi la quintessence que ça représente de l'implication de chacun dans l'œuvre, enfin dans le projet. Ça, moi, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs.
Je pense à un autre projet un peu hors norme et qui paraît impossible si on l'imagine comme ça avant. Je pense à l'Iliade de Luca Giacomini. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Parce que ça, c'est un projet qui, a priori, on se dit, mais comment ça va être possible? Et puis ça a eu lieu.
Oui, ça a tellement eu lieu que ça a eu lieu 2 ans. Enfin, il a tourné 2 ans, le projet. En fait, l'Iliade, c'est venu de Vis-à-vis. Ça a été d'abord une présentation au moment de la première édition du festival Vis-à-vis. Moi, le metteur en scène, je ne le connaissais pas, puisque c'est les coordinatrices et coordinateurs culturels qui proposent les projets. Moi, je n'interviens pas. Et donc, Luca Giacomini montait l'Iliade. Pour la première fois, je voyais vraiment ce que c'était qu'une création partagée, parce qu'il y avait autant de comédiens pros que d'amateurs sous main de justice. C'était tellement beau qu'il a fait 25 minutes. C'était tellement beau que je lui ai proposé de réfléchir au fait de le monter. Et à l'époque, on ne savait pas si c'était possible. Et on s'est tous pris de folie en se disant, il y avait la coordinatrice culturelle avec qui je travaille toujours à mots, qui est formidable. Il y avait le référent culturel de la DISP. Et on s'est tous dit, allez, on essaye. Et puis on s'est lancé dans l'aventure. Sauf que le metteur en scène en cours de route, il avait réfléchi pendant les vacances. Il est revenu et dit, OK, moi je veux bien monter l'Iliade, mais je monte tout l'Iliade. Je monte 10 heures de spectacle. Et là, moi, je me suis dit, on est passé à une autre dimension. Et je lui dis, mais à ce moment-là, nous, ce qu'on va faire, pour que ça soit intéressant aussi pour le théâtre, on va le monter en épisode, comme une série. Et donc, il a travaillé de façon à ce que chaque soir soit joué un des tableaux d'Iliade et qu'on avance comme ça dans le récit. Ça a été la première fois que... Alors, il y a des personnes sous main de justice qui avaient commencé à Vis-à-vis, qui sont sorties entre-temps et qui ont poursuivi le projet en étant libres. Donc là, vraiment comme des comédiens amateurs presque professionnels, 6 amateurs détenus longue peine, et ça a été la première fois que tout le monde a été sous contrat et tout le monde a été payé. Et cette chose-là, elle a fait jurisprudence, elle a été inscrite dans le règlement de l'établissement pénitentiaire ou de la direction d'administration pénitentiaire, et depuis, pas mal de projets, notamment ceux qui ont des partenaires culturels importants, avec représentation en public, billetterie, etc., ont pu faire en sorte que les amateurs soient sous contrat et soient rémunérés, ce qui va dans le sens de ce que je vous disais, de la professionnalisation du geste, en tout cas.
justement sur l'après, comment, une fois que ceux qui ont pu sortir, ont une permission de sortie, ont joué, rentrent dans leur cellule, est-ce qu'il y a des liens qui se tissent avec les artistes? Est-ce que vous, il y en a certains qui ensuite, enfin dont vous avez des nouvelles tout simplement, quelles nouvelles vous avez de l'après, ouais?
Ben, l'après, on le maîtrise pas complètement. C'est-à-dire que l'après, il appartient à chacun aussi. Donc, on va dire que il y a des artistes très impliqués, notamment qui font un suivi. Et je pense à Joël Pommerat, parce qu'il fait un travail remarquable. Notamment, il a beaucoup travaillé à la Maison Centrale d'Arles. Et depuis, il a engagé des comédiens qu'il avait rencontrés comme amateurs quand ils étaient à la Centrale. Il les a engagés à la compagnie Louis Brouillard, et maintenant ce sont devenus des intermittents du spectacle, voilà, des comédiens permanents de la compagnie, et il les fait tourner, hein, ils ont joué dans Amour 2, enfin je veux dire, en tout cas ils participent au projet de la compagnie, je sais que là ils préparent Marius donc ces personnes là moi du coup il y en a que je vois toujours beaucoup, mais parce que ce sont ceux qui ont eu envie de poursuivre ce chemin-là. Après, il y en a aussi que je vois d'Iliade, notamment, qui, eux, ont tout autre chemin. Certains, je suis encore en relation avec eux. C'est vrai que c'est toujours très difficile parce que se joue quelque chose dans la rencontre au moment de la création qui a du mal à se prolonger pour beaucoup de personnes qui n'avaient pas un rapport à la culture et à la création comme celui-là et qui ne s'autorisent pas forcément à le prolonger. C'est pour ça que c'est très important que les théâtres dans lesquels ils sont accueillis, soit aussi des structures ressources et relais. Et nous, par exemple, au Paris-Villette, on leur propose, avec une sorte de carte, de revenir, quel que soit le moment de leur sortie, quand ils veulent pendant un an et d'être invités au spectacle. C'est pas pour ça qu'ils le font, mais au moins ça leur est proposé. C'est déjà quelque chose, mais en fait, il faudrait mieux s'organiser pour qu'il y ait de vraies structures ressources pour toute personne qui souhaiterait ou fréquenter un lieu culturel comme spectateur ou reproduire une activité culturelle à la sortie. Mais c'est pas simple.
Ok, alors là, lorsqu'on tourne, ça on va mieux faire ça la semaine pro, mais lorsqu'on tourne, vraiment c'est important qu'il y ait les mêmes écarts entre chaque personne. Donc si vous voyez qu'il y a un écart un peu plus important, vous accélérez, vous régulez entre vous.
Le chorégraphe Louis-Pierre Joseph prépare avec les danseurs de sa compagnie et les détenus volontaires le spectacle Je t'épouserai qui se répète en détention.
On essaye ça une dernière fois, et après je crois que ça sera l'heure de s'arrêter, hein.
À l'approche de la création, il vient trois fois par semaine à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
Alors, franchement, je ne compte pas les séances, mais plutôt on a commencé depuis le mois de mars. Depuis à peu près première semaine ou deuxième semaine de mois de mars. Et on est sur à peu près deux ateliers par semaine. En sachant qu'à partir de maintenant, on va passer à trois ateliers par semaine. On a une base de 8 personnes. Après, en fonction des jours, des fois, il y en a qui peuvent avoir parloir, des fois, peuvent avoir des rendez-vous autres, divers et variés. Ben, il peut arriver qu'on en ait un peu moins, des fois un peu plus, ça change. Mais on va dire qu'on a quand même un noyau de 8 personnes.
Et pour cette création qui s'appelle « Je t'épouserai », vous avez aussi proposé un imaginaire particulier qui est celui du mariage et d'une promesse à venir. Comment vous avez pensé à ça pour eux?
Il était une fois. Alors en fait, l'histoire, c'est une histoire qui m'a été inspirée par rapport à une expérience que j'ai eue avec un détenu lors d'une intervention. En fait, ce jour-là, il y avait un atelier. Il était réticent. Il était nouveau, il découvrait l'atelier danse, mais très réticent. Vas-y, la danse, c'est pas pour moi. Vas-y, c'est pas mon délire. Tu sais, moi, je préfère rester posé, etc. Ok, ça se la tienne. Puis à un moment donné, il commence à voir que nous, à partir de la méthode Reiko, on commence à créer des choses, des détenus qui ne s'imaginaient pas pouvoir danser, se mettent à faire des choses dans lesquelles ils se sentent en confort, et donc il y a du sourire, il y a du rire, il y a de la complicité. Et puis ce détenu vient me voir discrètement, il me dit « En fait, tu sais, moi, à la base, la danse, c'est pas mon délire, tu vois. Mais par contre, tu sais, moi, avant de venir ici, j'étais tranquille avec ma future, et... voilà, je lui ai fait ma demande en fait. Je lui ai dit, mais trop bien et tout. Donc, du coup, vous êtes marié? Ben non, attends, je te raconte. Ok? Et en fait, elle est partie en France, en préparatif de. Puis moi, je devais la rejoindre après. Mais tu sais, tu connais, je devais faire une course avant. Et au moment où je passe la frontière pour la rejoindre, je me fais attraper. Et du coup, vu que j'avais déjà récidivé, hop, tout de suite, on me met en incarcération. Et donc, du coup, je sais que je l'ai déçu. Je sais que je lui ai fait de la peine. Et donc, moi, j'aimerais lui montrer que j'ai changé, que j'ai envie de faire des choses différentes maintenant. Et donc, est-ce que tu serais d'accord pour m'apprendre et faire ma propre chorégraphie de mariage? Voilà. Donc, c'est cette anecdote, en fait, qui m'a...
Et vous l'avez fait?
Il n'est pas revenu. Mais ce n'est pas important, en fait. Parce que ce qui est important, c'est surtout qu'il ait eu envie de créer du mouvement à l'intérieur, que cette demande l'ait mis en fait dans une autre perspective de lui-même. Et c'est en ça que je trouve ça intéressant, parce que là, en fait, c'est pas juste une histoire de « Ok, je vais me marier », ça crée du mouvement à l'intérieur de moi. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'on est en détention, donc on sait que la taille des cellules est plutôt restreinte. On sait que les mouvements, les déplacements des détenus sont aussi restreints. Donc l'idée, c'est de voir comment, du fait d'avoir une promesse extérieure, quelque chose en fait qui nous donne envie de se dépasser, comment ça peut créer du mouvement à l'intérieur de nous et comment ce mouvement se retranscrit à l'extérieur. Dans ce tableau-là, en fait, c'est la célébration qu'il faut comprendre. Okay, donc, au début, donc on a fini les scellettes. Il y a une première partie qui se passe comme ça. Okay. Et puis, à un moment donné, vous avez vu, moi, je viens et je commence à tourner. En fait, vous voyez, dans les mariages, il y a le truc de la cour d'honneur. Enfin, les garçons d'honneur et les femmes... Hein, la choré, voilà. C'est exactement ça qu'on va faire ici, en tournant. Comme ça. Pendant qu'il se passe un truc au milieu. D'accord ? On va faire cette choré-là ici. On va s'arrêter ici. OK ? Et là, à ce moment-là, il va y avoir un cercle et une personne va faire un petit truc. Jusqu'à un moment donné où il y a un top départ, où là, du coup, la lumière n'est plus sur nous, mais sur eux. À ce moment-là, on ne sort pas de scène, on se répartit autour. OK ?
Sur votre suite, là, il y a marqué Reiko. Et c'est le nom d'une compagnie, mais aussi d'une méthode, d'une philosophie. Comment vous décririez justement un peu la philosophie avec laquelle vous arrivez là? Parce qu'on parlait avec une des personnes détenues qui fait partie du projet et qui nous disait que c'était, pour lui, même s'il avait fait de la danse avant, c'était très nouveau, cette façon d'aborder le mouvement. Bon, j'imagine que c'est difficile de le résumer rapidement, ouais. Mais comment, en tout cas, quand vous arrivez là, de quoi vous leur parlez en premier pour les mettre en mouvement?
Alors, la première chose dont je leur parle, c'est de sensations. Je leur parle de sensations, je leur parle d'images. Et en fait, la méthode Reiko consiste à utiliser des éléments extérieurs, des objets, pour générer un imaginaire, pour stimuler un imaginaire et pour générer du mouvement. Donc, redéployer de la sensation qui ensuite va être réutilisée pour être chorégraphié, pour improviser, pour créer de la danse aussi. Et donc cette méthode, je l'ai développée, ça va faire bientôt 8 ans qu'elle existe, et elle a été développée suite à plusieurs choses. La première, ça a été par rapport à moi, mon propre parcours personnel, qui est que moi, en tant que danseur qui a parcouru divers éléments méthodologiques, divers styles, que ce soit le hip-hop, les danses africaines traditionnelles, que ce soit le contemporain, etc. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on avait une approche qui était souvent technique pour transmettre la danse. Et moi, dans mon caractère, j'ai besoin d'abord d'être plongé dans un imaginaire. Et puis, au bout d'un moment, j'ai aussi vu que moi, il me manquait quelque chose de l'ordre du corps. De comment on reste connecté à soi, comment on vibre à partir en fait de nos propres sensations pour faire en sorte que la danse devienne beaucoup plus incarnée, beaucoup plus interne que lorsqu'on est peut-être juste dans une restitution technique où là en fait on exécute des choses les unes après les autres sans forcément être très incarné. Donc
cette méthode-là, je l'ai développée pour pouvoir justement répondre à ce besoin que j'avais de me sentir, d'être plein, d'être authentique et surtout de créer une esthétique qui m'appartient. Et ce que j'invite les détenus à faire, c'est plutôt que d'être dans une imitation esthétique et technique, c'est plutôt, ok, bon ben, imaginez-vous que vous dansez avec une balle, quels sont les gestes qui vont vous être inspirés par la balle et comment ces gestes-là vont définir une certaine qualité de mouvement. Et comment ces qualités de mouvement-là, ensuite, on va pouvoir les utiliser pour pouvoir faire une chorégraphie. Et étant donné qu'on a tous l'utilisation d'objets similaires, là je vous parle d'une balle, donc si on utilise tous la balle, on n'aura pas tous la même manière d'utiliser la balle, mais à un moment donné, une balle, on la lance ou on la fait tourner. Au bout d'un moment, il y a quand même des archétypes de mouvement qui reviennent. Et c'est sur ces bases d'archétypes de mouvement que moi, je me base pour créer du commun. On va faire une petite initiation, okay, où graduellement, chacun va pouvoir tester un peu le cube, monter, tourner un peu, sortir. Okay. Alors, la première chose, du coup, si vous êtes encore chaud, on va se mettre autour du cube. Ok. Donc, ce cube est solide, vous inquiétez pas. Il est conçu pour rester au moins du 500 kg. Donc, à cet endroit-là, on est tranquille. On peut être à 3 au maximum, à 4 au maximum dedans, mais pour là, on va être à 2. Ok. Donc, première chose, c'est, bah, venez déjà, on commence à toucher un peu la matière. On voit que c'est solide. Ok. On commence à le faire tourner. On ralentit. Ok. Comme ça, vous voyez un peu plus proche. Ensuite, le premier truc, ça va être juste être dedans, s'appuyer dessus. Donc, toujours une main au-dessus. L'avant-bras sur une barre, la main ici. Et comme si, en fait, tu tractais, tu tirais quelque chose, d'accord? Ok? Donc, let's go. Tac. Tac. Yes. Tes pieds, voilà. Accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi là-haut. Voilà. Yeah.
Et vous parliez d'objets tout à l'heure. Là, il y a un... En tout cas, ce matin, dans le travail, il y avait un cube métallique, même deux cubes avec un qui bougeait à l'intérieur. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que ça, c'est une... quelque chose avec lequel jouer pour le corps, ou est-ce que c'est aussi une contrainte à dépasser? Comment vous le raconteriez, cet objet-là?
Alors cet objet, il a plusieurs grilles de lecture. La première, c'est le fait de mettre en mouvement une masse, de manière très concrète. Une masse, on le met sur des roulettes, et à ce moment-là, on trouve des solutions pour le mettre en mouvement. D'un point de vue symbolique, cette masse-là, c'est nous. C'est peut-être des moments où on a du mal à être en mobilité parce qu'on est bloqué par des choses. Alors, à nous de trouver notre propre plateau à roulettes qui peut être une demande en mariage pour être mis en mouvement. Ensuite, le deuxième sens qu'on peut mettre sur ce cube, sur ces cubes, c'est l'espace mental. C'est, vu qu'il y a un cube qui est plus grand que l'autre, un qui fait 1 mètre, un qui fait 2 mètres, l'idée c'est de se dire, ok, bon ben, il y a des moments, on est dans un espace mental qui est restreint, et ou qui peut être saturé, et le fait qu'il soit saturé peut empêcher du coup le cube d'être mis en mouvement. Et puis il y a des moments où cet espace restreint, on arrive à l'ouvrir davantage et donc à agrandir notre champ de réflexion, mais donc de nouveaux problèmes arrivent parce qu'on a agrandi le champ. Donc à ce moment-là, il y a d'autres choses qui arrivent avec lesquelles il faut pouvoir être en accord ou en désaccord, mais c'est un espace qu'il faut pouvoir protéger. Et puis il y a une troisième forme dont vous avez parlé, qui est la rencontre des deux. C'est comment dans l'immobilité on peut être en mouvement et comment finalement, lorsqu'on arrive à raccorder ces deux espaces, on parvient à devenir ce que moi j'appelle un créateur illimité, où on se dit en fait peu importe ce qui arrive, je trouverai une solution pour me mettre en mouvement. Et que ce soit ça d'un point de vue physique, d'un point de vue mental et d'un point de vue spirituel également.
Et Reiko, je ne me souviens plus exactement de ce que veut dire chaque lettre, mais le début, c'est réveil, non?
Réveil.
Qu'est-ce qui est en sommeil et doit être réveillé en premier?
C'est soi, tout simplement. Reiko, ça veut dire réveil de l'intelligence
corporelle et kinesthésique originelle. Je dis réveil et pas éveil parce que je pars du principe qu'initialement, corporellement, on a déjà énormément de compétences. Mais la culture, l'éducation, les expériences de vie vont faire qu'on va sélectionner des compétences plus que d'autres ou qu'on va progressivement réduire en fait nos possibilités de mouvement. Je prends un exemple qui est, dans la culture occidentale, on nous apprend que voilà, pour l'apprentissage, il faut être assis à table pendant 8 heures, l'école. Et puis cet apprentissage-là, ensuite on le retrouve dans certains types de travail. On est assis derrière un bureau pendant 8 heures. Les études ont montré que ce n'est pas forcément le plus efficace et le plus efficient pour avoir pour rester créatif. Peut-être 2 heures assis et puis une petite demi-heure debout en mouvement et hop, retourner à 2 heures assis peut être beaucoup plus efficace. C'est un peu ce qu'ont développé les méthodes américaines. Et en fait, dans Reiko, on est vraiment dans cette approche des choses, c'est-à-dire comment remobiliser en fait le corps dans le plus de dimensions possible, de manière à ce qu'il puisse redéployer son énergie vitale, son énergie créative, et à ce moment-là que nous on puisse disposer de nos pleines capacités. C'est-à-dire que par exemple, si je prends le verbe grimper, ça fait combien de temps que des personnes qui ne font pas escalade n'ont pas grimpé? Pourtant, vous sentez qu'au fond de vous, vous avez encore cette capacité de grimper. Mais ça fait un moment que vous n'avez pas grimpé parce que vous n'êtes pas dans un environnement qui favorise le fait de grimper. Ok ? Mais on sent bien que si par exemple on diversifie ses activités, qu'on grimpe, qu'on nage, comme diversifier le type d'aliments, on va manger du salé, on va manger du salé, on va manger du sucré, on va manger de la mer. Et puis c'est pareil que si on voyage dans un pays où il fait chaud, un pays qui fait froid, ben en fait tout ça, ça va nous donner une certaine diversité en fait d'expérience qui va nous permettre d'avoir une réflexion qui est peut-être plus ajustée par rapport à nous-mêmes plutôt que lorsqu'on reste uniquement dans un seul espace cantonné et qu'on établit en fait tout un champ de réflexion mais qui finalement reste uniquement cantonné à cet espace-là. Donc Reiko, c'est ça, c'est de pouvoir avoir le plus de moyens physiques, physiologiques, psychologiques, mentaux développés pour qu'on soit au plus juste de nous-mêmes.
Et justement, en situation d'enfermement, il y a beaucoup d'expériences physiques et de mouvements qui sont plus possibles. Comment ça se réouvre ici
Alors, la première chose, c'est que moi, quand j'ai commencé mes interventions en détention, j'étais très surpris de voir en fait l'état physique des détenus. C'est-à-dire que pour la plupart, on est loin des clichés qu'on peut voir dans les films, à savoir le détenu qui est un peu baraque, qui fait du sport. Non. Pour la plupart, l'état physique, il est pas au top. Pourquoi ? Ben parce qu'en fait, il reste enfermé, en fait. Et il reste assis. Donc, il y a des problèmes de dos, des problèmes de corps en tout genre, mais liés au fait d'une stagnation, en fait, du corps. Il y a moins de mouvement. Et donc, du coup, la première chose qu'on fait, c'est commencer par retourner à soi, on respire, on s'étire et on refait un peu de gainage. Comme ça permet de remobiliser un peu la proprioception, de redéployer un peu les membres qui ont peut-être été un peu trop stagnants en restant immobiles. Et à partir de là, c'est sous forme de jeu qu'on va commencer à remobiliser le corps. Parce qu'au travers du jeu, ben en fait, on peut utiliser des moyens autres pour pouvoir déployer du mouvement. Alors que si on part plus sur un truc très technique, ok, je fais une courée, etc., à ce moment-là, c'est le mental qui va passer en première base pour pouvoir apprendre. Et l'idée, c'est pas ça, c'est qu'on remobilise le corps et pour ça, on recrée du jeu.
J'ai oublié de préciser qu'il y aura quelque chose qui va se passer au premier plan aussi. Okay ? Ce qui se passera au premier plan, c'est simplement une marche très lente. Très, très, très lente. Au même titre qu'ils étaient lents devant, là, ça va être lent devant. Enfin, t'as compris. Donc l'intention, ça va être, j'ai mon espace mental qui commence à être envahir, d'accord ? L'invasion, ça peut représenter les pensées, ça peut représenter l'extérieur, c'est ce que tu veux, ok ? Et il y a des moments dans ces pensées, il y a des choses qui s'installent, il y a des choses qui traversent des fois, il y a des choses qui s'installent, genre des bad moods, des réflexions que à la base c'était pas là, et puis là elles essayent de s'installer en nous, tu vois ce que je veux dire, et puis non, on lutte pour les chasser, et puis finalement non, elles sont, d'accord, c'est cet état d'esprit en fait qu'il y a dans ce tableau là.
Et vous parliez, Willy-Pierre Joseph, de l'importance de l'imagination. Et dans la création, là, Je t'épouserai, il y a cette promesse en tête. Est-ce que l'imaginaire de chacun, ce qu'ils ont en tête, peut-être les mots, ce qu'ils se racontent pendant qu'ils jouent, est-ce que vous en parlez ou pas ?
Complètement. Complètement, et ça sert de base aussi à la pièce. C'est-à-dire que on a eu souvent des conversations, là on ne l'a pas fait aujourd'hui, mais on a eu souvent des conversations où on parle d'un sujet lambda comme... Est-ce que ça vaut le coup de se marier ? Toi, t'en penses quoi ? Clac, clac. Et ça rebondit. Ça, c'est des choses qui sont enregistrées, qui vont être réutilisées dans le spectacle d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est important aussi que les détenus puissent s'approprier le sujet, s'ils veulent l'incarner. C'est important que tout cet espace mental dont on parle, toute cette projection que moi j'ai en tant que chorégraphe, qu'ils puissent, eux, le comprendre et sentir ce qui se passe, commence à vivre pour eux, quoi. Donc, voilà.
Et en même temps, c'est des sujets assez intimes. Est-ce que c'est simple de partager des choses comme ça avec des gens qui ne connaissent pas forcément, parce qu'ils ne se connaissent pas forcément entre eux aussi avant l'atelier ?
D'où l'importance de créer du lien dès le départ et au travers des étirements, des échauffements, au travers des jeux où en fait on apprend à se connaître par le corps, par l'énergie physique, avant de rentrer dans une connaissance un peu plus... social, nom, prénom, matricule, tu viens d'où ? Non, d'abord on se rend compte par le corps, l'énergie, et puis le lien se crée beaucoup plus facilement, en tout cas beaucoup plus simplement. Et après, bah, comme vous l'avez pu le voir, y a une espèce d'atmosphère dans l'atelier où même moi j'essaye de... Enfin, je suis quelqu'un qui je pense savoir où je vais, mais j'essaye quand même d'amener quelque chose de plutôt friendly, où en fait on peut s'autoriser à rire et à être, en fait. Parce que c'est important, parce que c'est aussi ça, moi, qui me nourrit. Et c'est comme un aller-retour entre ce qu'eux m'apportent, ce que je leur apporte. On a besoin d'être dans cette relation d'échange qui va permettre de renforcer la confiance.
Ok, la musique n'est pas définitive, bien évidemment. Mais bon, vu que la dernière fois, on a été inspiré par Monsieur James, Kerry de son prénom, n'est-ce pas ? Donc, petites intrusions. D'abord des intrusions pour être après des invasions, ok ? On rentre, on sort, et puis progressivement, on essaie d'aller de plus en plus rapidement, on essaie de créer des combinaisons, et puis progressivement, on commence à mettre un pied à l'intérieur, et puis à un moment donné, on traverse carrément le tube. 3, 2, 1, tranquille. Cinq, six, sept, et... Première personne.
Voilà le son que j'attendais sur ton période tendue. Moi je sors du 9-4, j'évite les coups tordus. Depuis mon adolescence, j'évite les pièges tendus. C'est tendu, et alors on assume quand c'est tendu. Respect, homme de paix, ouais, mais y'a un malentendu. Tout le monde devrait nous marcher dessus. Je résiste et tu prétends être déçu. Qu'est-ce que tu veux de moi ? C'est toi qui me déçois. Qu'est-ce t'as de fou, toi ? Plus question de me justifier. Refrais ça date pas d'hier qu'ils essaient de me crucifier. Tous attendent ma chute, guette le faux pas. Tous rêvent de dire, tu vois, ils disent qu'ils ne fait pas. Tous m'attendent au tournant, avec chacun leur raison. Un jour, je m'exilerai parmi les hommes de raison. Mais pour l'instant, je suis là, et je rappe sale. Je rappe tellement bien qu'on dit que je rappe mal. Je rappe, ah, je traque le track. Depuis Thug Life, je ne rappe que des massacres. Dès que je rentre dans la cabine, ça sent le classique. Si un jour on m'assassine, c'est que ça sent le plastique. Je rappe sous la pression, je rappe sévère. Je rappe pas torse nu, mais je rappe le ventre ouvert. Je rappe vrai, je rappe thug. Je rappe la paix en attendant que les balles pleuvent. Et vu comment c'est parti, tu sens qu'il n'y aura pas de refrain. Si ce n'est à la fin là, je rappe quand comme j'avais faim. Je rappe quand comme j'avais rien. D'ailleurs, je n'ai toujours pas grand chose pour faire des thunes. Je n'ai jamais choisi les bonnes causes. Tu veux le peu que j'ai, tu joues avec de l'essence. Garçon, c'est du feu que j'ai. Tout ce que j'ai acquis, je ne l'ai volé à personne. Et quoi que disent les hoodies, je n'ai trompé personne.
Un des détenus qui est interprète dans la pièce « Je t'épouserai » de Willy-Pierre Joseph est venu nous raconter le processus de création. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous avez eu envie de participer à cette création? Et est-ce que vous aviez fait déjà de la danse? Enfin voilà, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir là?
Ben, si, j'avais déjà fait de la danse auparavant, étant plus jeune, je me rappelle, étant adolescent. Ce qui m'a motivé pour l'atelier, c'est-à-dire déjà pour pouvoir m'évader de la cellule. Et par la suite, j'ai dit, ben, pourquoi pas, la danse, ça a toujours été quelque chose que j'ai toujours aimé. Vu que j'aime bien la musique, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Là, ça m'a vraiment touché. Ça m'a... Je me suis dit, c'est vrai, c'est pas si bête que ça, quoi, le fait de participer à l'activité de danse. Et ça fait aussi une activité de partage avec d'autres détenus et aussi du monde à l'extérieur.
Et comment vous décririez la méthode de Willy Pierre-Joseph? Peut-être les premiers exercices qu'il vous a fait faire, comment vous les raconteriez?
Franchement, elle est bonne. Je ne m'attendais pas à ça. C'est une méthode que je n'avais jamais vue. Comme je disais, lorsque j'étais adolescent, pour nous mettre en situation pour commencer l'atelier, le prof il nous faisait faire juste des étirements. Et puis voilà. Et Willy, dans les étirements, on retrouve les mouvements qui sont dans le spectacle en lui-même. Et ça nous met déjà dans l'ambiance du spectacle.
Et le spectacle s'appelle Je t'épouserai. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que ça raconte, justement, ce qui se raconte dans les corps et les mouvements?
Ben, ce qui se raconte, c'est en gros, c'est lorsque, au fil d'une relation, un moment, vu que la relation s'installe, il y a cette question, cette fameuse question qui s'impose. Est-ce qu'il ne faudrait pas que le mariage s'avère être la suite logique? Et du coup, moi, je me suis dit, mais c'est vrai ça. Lorsqu'on y regarde bien, la logique voudrait qu'une relation se termine par le mariage. Et les différents aspects du mariage, on a tendance à les oublier. Or que là, je me suis dit, c'est vrai, il y a ça dans le mariage. Il y a toutes ces questions qu'on vient qu'on se pose. Il y a toutes ces situations, comme il disait Willy aussi, le jour J où il y a bien qu'on ait programmé certaines choses, mais il y a ces petits défauts, ces petits détails qu'on n'a pas prévus, qui viennent, qui se recomportent et qu'il faut qu'on fasse avec. Et j'avoue que ça, j'avais pas pensé à ça. Et c'est quand même assez pesant lorsqu'on regarde de loin.
Foum! Tac! C'est bien aussi, tu peux faire ça. Et foum! Tac! Yes! Ok. Vous avez compris le jeu? Sauf qu'en fait, ça va faire foum tac à droite, foum tac sort à gauche, sort à droite, sort à gauche. Ok? On se remet derrière.
Et vous faisiez la danse quand vous étiez plus jeune, mais est-ce que là, vous avez l'impression, avec ce travail avec Willy Pierre-Joseph et cette création-là, d'apprendre des nouvelles façons de bouger, d'être? Enfin, est-ce qu'il y a des choses que vous découvrez dans votre corps et la façon de bouger?
Oui, il y a des façons que je découvre, parce que la danse que je faisais, c'était plus du hip-hop. Et là, je vois que c'est plus flexible, c'est plus souple. Il y a des moments d'arrêt, justement. Et dans l'hip-hop, il n'y a pas vraiment de moment d'arrêt, on est plus actif. Et le moment où on incorpore le regard, le partage. Et ça, je ne l'avais pas au début. Et c'est quelque chose que je me dis, ah ouais, dans la danse, il y a ça. Et j'ai déjà fait, j'ai participé aussi à des cortèges de mariage. Et c'était pas aussi, comment dire ça, c'était pas aussi...
Des cortèges dans la vraie vie, quoi.
Ouais, dans la vraie
vie. Vrai mariage.
Dans le vrai mariage. Et c'était pas aussi, comment dire ça, aussi prenant. Parce que là, la danse, c'est vrai qu'on l'a fait. Vu qu'il y a un spectacle autour, on ancre justement le fait, comment dire ça, le personnage, on se l'approprie vraiment, et ça fait un détail particulier qui est assez bien dans l'ensemble.
Et donc, quand vous dansez, est-ce que vous avez dans la tête une histoire ou des mots?
Si, j'ai des mots, j'ai des histoires. Je ne vais pas mentir. Des fois, comme là, justement, sur l'afro qui passe, je me dis, ouais, c'est vrai, le mariage, pourquoi pas? Dans le futur, j'ai la trentaine et c'est vrai que j'ai une compagne. Et assez souvent, quand je suis dans la répétition, je pense à ça et je me dis, ouais, pourquoi pas.
Vous pensez à votre mariage à vous, en fait?
Ouais, bizarrement, ça, je me suis projeté sur ce sens.
Et est-ce que vous avez déjà fait du théâtre avec des mots? Est-ce que ce serait plus simple ou plus facile à votre ou plus difficile à votre avis?
Le théâtre, non, j'en ai pas fait. On en a à l'école, je crois que j'en ai fait en étant au collège, les premières années de collège, mais c'était dans la salle de classe. Et là, l'idée de dire qu'on sera devant du monde, c'est pas pareil. Ça met un peu de pression, un peu de stress. Après, mais Willy, il sait nous mettre en confiance, donc. Je sais qu'Ouli sera nous mettre en confiance pour ça.
Donc. Ce sera la première fois que vous jouerez devant des gens, devant des spectateurs?
Oui, ce sera la première fois et j'avoue que plus les jours passent, plus les jours approchent, le stress il monte un peu.
Et là, on parlait de façon de bouger, de danse, vous nous disiez que c'est une façon de s'évader, de venir là. C'est quoi le plus difficile pour le corps d'être ici, comme contrainte, ou qu'est-ce qui est le plus compliqué dans la contrainte de tous les jours, du quotidien?
Ben, dans le quotidien, c'est-à-dire que au début, c'était assez compliqué parce que il y a pas mal de détenus, souvent on se dit bonjour, mais donc on ne sait pas comment on est. Donc on avait toujours ce petit côté de refermement en soi. Donc il y a ceux qui sont plus flexibles que d'autres. Moi j'aime bien parler, mais j'avais du mal à toujours m'exposer, à bouger en public. Et Willy. Et il a su nous mettre en confiance justement afin qu'on soit plus décontracté et que nos mouvements ils soient plus naturels. Et j'avoue que comparé au début et à maintenant, je vois l'évolution de nos mouvements et qui sont plus naturels. Et il y a les mouvements qu'il nous faut faire pour l'échauffement qu'on retrouve aussi des fois dans la vraie vie. Hein.
1, 2, 3, 4, Nika, tine, tita, tepe, tape, tela, Nika, 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 Yassine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les mains, tata, pa, bababa, Nika, papa, 1, ti, pa, pa, ta, pa, et pam 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 pa 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 pam. Et on marche. Ah pardon, c'est dans l'autre sens.
Et c'est quoi le moment que vous préférez dans l'atelier d'aujourd'hui par exemple et dans le spectacle? Quel moment vous préférez danser?
Le moment où je préfère danser, C'est le magma parce que c'est lui qui se rapproche un peu plus de moi. Il y a le duo avec Inès aussi qui est bien.
Pourquoi?
Ben en vrai là on est seul, donc du coup ça demande plus de concentration et plus d'implication aussi. Donc du coup on est obligé de faire attention et de montrer qu'on est capable aussi. Parce qu'il y a les spectateurs qui sont en face, donc il ne faut pas qu'ils soient déçus aussi. Donc du coup, ça met un niveau d'exigence plus élevé.
Et c'est particulier parce qu'il y a cette structure, ce cube, et là il y a un double cube parce qu'il y en a un qui bouge. Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est une contrainte ou au contraire quelque chose avec lequel jouer? Est-ce que c'était facile de se l'approprier?
Ben non, je ne vois pas... Pour moi, personnellement, c'est pas une contrainte. moi je me dis que plus c'est vraiment ça représente vraiment le cerveau. Tu vois, on a la tête, mais à l'intérieur il y a beaucoup de choses qui se passent. Et le cube, pour moi, je dirais que c'est vraiment le cerveau lui-même qui tourne dans le ménage. Donc on peut voir la personne, mais dans le cerveau ça bouge beaucoup. Donc pour moi, le cube, il représente vraiment le spectacle en lui-même.
Et dans votre cerveau à vous, il y a quoi quand vous dansez?
En vrai, je pense à rien, je pense au spectacle. Je pense même pas au fait que je sois incarcéré. Je suis libre. Je me sens libre. Quand je suis ici, je me sens libre. Je pense à rien, je pense uniquement à la représentation.
Donne envie de continuer la danse ensuite?
Je vais pas mentir, j'ai réfléchi quand même. J'ai réfléchi quand même. Au début, non, mais plus le temps il passe, plus les répétitions s'enchaînent. Et c'est quelque chose que je me dirais que ce serait peut-être pas mal de faire ma libération.
Alors, la musique s'arrête. La musique continue. La lumière s'éteint, enfin se fade, chante. Ok. Vidéo. Pendant la vidéo, tout le monde vient au milieu, vient en ligne devant. Lumière. Chacun dit son prénom. Et ça se finit comme ça. Et là, c'est la fin. Ok, ça va? Cool.
Vous écoutez Tous en scène sur France Culture. Nous sommes toujours en répétition à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis avec le chorégraphe Willy Pierre-Joseph.
Et qu'est-ce qui fait, Willy Pierre-Joseph, que vous n'êtes pas devenu ingénieur en électromécanique?
En fait, je pense que je le suis. Je suis devenu, mais à ma manière. Ce qui fait que je ne suis pas devenu ingénieur en électromécanique, en fait, c'est simplement qu'à un moment donné, il y a eu la danse qui est arrivée. Il y a eu aussi des histoires de vie, des problèmes de vie qui ont fait que je me suis beaucoup plus intéressé à la mécanique des corps, à la mécanique de l'esprit, pour pouvoir en faire quelque chose. Et en même temps, je suis quelqu'un qui est très attaché à la technologie, aux objets. Et je crée mes propres scénographies. Pour pouvoir créer ces scénographies-là, je me rends compte que j'ai cette réflexion d'ingénieur, en fait. Et quand j'observe les corps, et quand je structure aussi mes ateliers ou autres, j'ai cette réflexion à savoir, je mets en place un système. Dans ce système-là, voilà ce qui est attendu. Comment on peut faire pour... voilà à quelle problématique ça répond. Et comment on fait pour pouvoir améliorer ce système-là. Donc, à ma manière, j'y suis un peu, je le suis devenu. Mais c'est juste que, pourquoi je n'ai pas fait de manière très concrète? Ben voilà, il y a eu des besoins autres qui étaient là à ce moment-là, et voilà.
Et vous avez travaillé aussi assez longtemps dans le social, parce que vous avez été éducateur spécialisé. Comment ça, cette expérience-là, ça vous accompagne encore aujourd'hui quand vous êtes chorégraphe?
Alors, ça m'accompagne par rapport à l'adaptabilité dont je peux faire preuve en fonction des différents publics que je rencontre. Donc, je me définis aujourd'hui comme un artiste du mouvement, mais ce que j'y inclus dedans, c'est simplement une personne qui utilise le mouvement pour pouvoir partager, pour pouvoir raconter des choses. Dedans, ça inclut être chorégraphe, être pédagogue, être danseur, être organisateur événementiel. Et en fait, lorsqu'on est dans ce genre d'activité, on rencontre divers types de publics. Moi, ce qui m'importe, c'est que chacun puisse être au mieux de lui-même avec sa propre danse. Et donc, je ne me limite pas à juste un public qui est en détention ou des personnes qui sont déjà des danseurs pros. Au contraire, le fait d'avoir été éduque m'a permis de travailler avec des personnes handicapées, avec des personnes qui ont des problématiques de drogue, avec des enfants qui sont dans les MECS. Enfin, voilà, j'ai vraiment eu un large panel. Et en fait, quand on dit éducateur spécialisé, Souvent, on attend un spécialisé en quoi ? Mais en fait, c'est spécialisé en la relation. C'est ça la suite. Et du coup, aujourd'hui, après avoir fait 10 ans dans ce milieu-là, je me rends compte que j'ai une facilité à pouvoir œuvrer avec différents publics et à switcher. Là, je suis avec vous, je switch, parce qu'il y a une espèce de lecture de qu'est-ce qui est attendu et qu'est-ce que moi, je peux proposer par rapport à ce qui est attendu. Du coup, ça facilite aussi la création de la relation et donc de la confiance et donc de la transmission.
Et là, les danseurs avec lesquels vous venez ont démonté le cube, ouais. Et ont tout remis comme c'était dans la salle où on est. Est-ce qu'à chaque fois, vous venez avec votre cube ?
À chaque fois que je viens ici ? Non, en fait, le cube, là, c'est bon, on l'a ramené une fois, on l'a mis dans un placard, c'est bon. Pour ce que moi, j'entends dans votre question, c'est est-ce que mes activités tournent beaucoup autour du cube ? Oui et non. C'est-à-dire que ce qui représente la méthode Reiko, le symbole, ça va être le cube, parce que le cube représente l'espace. Mais c'est un cube qui est ouvert, donc c'est un espace à travers duquel on traverse. C'est un espace qui représente le dedans et le dehors, mais c'est aussi un espace qui représente la transition. Je rentre dans un cube, il se passe quelque chose, je sors, je ne suis plus dans le même état. Et c'est ça Reiko, c'est la mise en mouvement. Et donc du coup, ce cube-là, au début, je l'utilisais beaucoup dans tout ce que je faisais, mes ateliers, etc. Puis au fur et à mesure, j'ai réussi à développer en fait une autre, avec d'autres objets. Et puis même, j'ai pas forcément besoin des objets pour pouvoir transmettre cet état. Mais symboliquement, on va dire que Reiko, ça va être passer d'un état A à un état B. Et la transition, c'est cet espace qui est représenté par le cube.
Et pour la représentation de la création, donc Je t'épouserai le 3 mai au Festival Vis-à-vis au Théâtre Paris-Villette, pour le moment, est-ce que vous savez qui pourra être présent sur scène ? Et si certains n'ont malheureusement pas la permission, on espère évidemment qu'ils pourront tous sortir, mais comment ça jouera ? Est-ce que vous avez réfléchi à l'absence d'une ou deux personnes ?
Pour moi, le challenge en fait, de ce projet, il va être là. Il est de pouvoir créer quelque chose qui se tient avec un minimum de personnes, comme avec un maximum. En sachant que je ne suis pas au courant de qui va pouvoir être là à la fin. Donc moi, dans ma manière d'avoir créé, j'ai d'abord pensé en fait à une structure de base au travers duquel, en fait, en fonction des rencontres avec les détenus, des réflexions, on l'a fait plus ou moins évoluer. Mais en sachant que si demain, il n'y a pas les détenus qui devaient être là, la structure pourrait se tenir aussi.
Attendez, deux secondes, après je vous laisse. Les gars, du coup, déjà, merci beaucoup d'être venus aujourd'hui, c'est cool. Et vous voyez, tout ça, c'est, on a traversé tout le tableau. Donc vous voyez, il y a des endroits en fait qui, en fait, on peut pas faire sans vous. C'est important en fait de pouvoir être là quand c'est possible, parce que la pièce, elle est déjà écrite. Et vous avez vu, il y a des rôles, il y a des trucs. Du coup, merci encore pour être venu aujourd'hui. Et espérons que ça puisse se faire, ça puisse se continuer aussi, puisqu'on a vraiment besoin de cette énergie là ensemble pour qu'on montre comment on défonce le truc. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power.
Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Dupéron pour la préparation, au mixage, Manuel Couturier. Broken, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose, motherfucker, we rollin'. Motherfucker, we rollin'. With some light-skinned girls and some Kelly Rollins. And this white man world, we the ones chosen. So good night, cruel world, I see you in the morning. I see you in the morning. This is way too much, I need a moment. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. I'm tripping off the power. Till then, fuck that, the world's ours.
goalie in my ice. Brought the goalies in nine body. Every characteristic of the egotistic. He knows he's so fucking gifted. I just needed time alone with my own thoughts. Got treasures in my mind, but couldn't open up my own vault. My talent, like creativity, purity, and honesty is honestly being crowded by these grown thoughts. Reality is catching up with me. Taking my inner child, I'm fighting for custody. With these responsibilities that they entrusted me. As I look down at my diamond encrusted piece, thinking no.